Je dois rapporter quelque chose au Québec, donc j'ai pensé à me pratiquer un petit peu, vous me direz si ça y va. Alors, je vous souhaite le bonjour de Montréal. C'est bon, ça va? Non? Bon, OK. Je vais vous parler en québécois, mais ce ne sera pas tout à fait en québécois, d'accord? Si je vous parlais vraiment en québécois, vous ne comprendriez rien de tout ce que je vous dirais. Donc, je ne vous parlerai pas en québécois, on va s'ajuster un petit peu. C'est bon? Vous devriez réussir à me suivre. Tout d'abord, merci pour l'invitation, merci pour le privilège d'apporter le message de la parole ce matin. Comme ça a été mentionné, je m'appelle Yannick, je suis pasteur et je suis le mari de la jolie Esther. Où est-ce qu'elle est? Mon épouse est juste là-bas derrière. Pour aller la saluer après. Et puis, père de deux jeunes adultes de 17-19 ans, donc on est en pleine sanctification. Priez pour nous. Je suis pasteur d'une assemblée depuis 20 ans maintenant. C'est en fait mon église mère. C'est là que j'ai connu le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur à 19 ans, mais j'ai commencé à fréquenter l'église à 7 ans. Ça, c'est une autre histoire très, très longue. Et puis, on a fait une heureuse découverte en arrivant ici. On a découvert notre assemblée, qui a été implantée il y a une cinquantaine d'années, l'a été par un monsieur de la région, dont le frère est toujours vivant. Donc, monsieur Élisée Beau a quitté la France, il y a de cela belle lurette, est venu implanter des églises au Québec, et son frère, monsieur Henri Beau, est toujours vivant, il habite dans la région. On espère pouvoir le rencontrer cette semaine. On a très, très hâte. Simplement pour situer un peu notre assemblée, notre église est sur le sud de Montréal, mais c'est vraiment une église urbaine. On est juste l'autre côté du fleuve, si vous connaissez un peu le Québec. La ville elle-même, 400 000 habitants, collée sur Montréal. La moitié de la population de la province habite dans le Grand Montréal. Donc, ça vous donne une petite idée. C'est une assemblée donc en milieu urbain. C'est une société très, très post-moderne, le Québec. À bien des égards, ça ressemble à la réalité de la France, en même temps une histoire qui est différente. Je vais vous en parler un peu plus loin. Mais déjà, juste avec cette fin de semaine, j'ai déjà du plaisir à connaître votre église, à connaître votre assemblée, et déjà j'aime votre assemblée. C'est vraiment un privilège pour nous. Alors, je veux juste vous mentionner, si toutefois, à un certain moment, vous en auriez assez de Vincent ou de Sam, on fait un échange, on les envoie à Montréal, puis je m'en viens ici. Peut-être que vous me diriez que vous perdriez au change, qu'on testerait pas ça, mais des fois, c'est bon de perdre ce qu'on a pour mesurer la valeur, n'est-ce pas? Alors, on sait jamais, vous pourrez nous faire un coucou, puis on viendra faire un petit tour ici. Ce matin, on va parler ensemble du cœur de Dieu pour son Église dans la ville où il l'a conduit. C'est de ça dont on va parler ensemble ce matin, du cœur de Dieu pour son Église dans la ville où il l'a conduit. Quelques questions pour vous d'entrée de jeu. Est-ce que vous croyez que Dieu aime son Église? Et plus concrètement, est-ce que vous croyez que Dieu aime le BTM? Non? Est-ce que vous croyez, d'autre part, que Dieu aime les villes. Et que Dieu aime la ville Toulouse Métropole. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je prends pour preuve de l'amour de Dieu pour son Église qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire plus. Et je prends pour preuve que Dieu aime Toulouse Métropole parce qu'il vous a placé ici. C'est le témoignage de l'amour de Dieu pour cette belle ville de Toulouse, que de vous avoir conduit ici à cet endroit. Dieu nous a conduit, nous, à Montréal, au Québec, et Dieu vous a conduit ici. C'est Dieu qui nous conduit là où on est appelé à servir. On pourrait résumer le message ou l'exposé de ce matin ainsi. D'accord? Quittez les barricades. Dieu nous conduit au sein des cités, ou vous diriez des villes, pour chercher le bien de la ville et nous y multiplier. Quittez les barricades. Dieu nous conduit au sein des cités pour chercher le bien de la ville et nous y multiplier. Et pour ça, ce matin, on va se tourner dans l'Ancien Testament où il est question dans un passage de la captivité d'Israël et on va essayer d'apprendre de cette captivité ce que Dieu a comme vision pour nous, comme chrétiens, et pour vous, comme Église, ici, Toulouse Métropole, dans cette ville ici, ou là où Dieu vous a conduit. Lorsqu'on considère l'Ancien Testament puis qu'on on envisage les différentes expériences que le peuple de Dieu avait dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il y a différentes expériences. Parfois, le peuple de Dieu, c'est une famille. À d'autres moments, c'est un peuple souverain qui a son territoire. À d'autres moments, c'est un peuple en captivité. Et de toutes les expériences du peuple d'Israël, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, celle qui ressemble le plus à l'expérience de l'Église, c'est le moment où l'Église, où le peuple de Dieu est en captivité. C'est ça qui nous ressemble le plus. Et on va aller chercher dans ce moment de captivité-là ce qu'on peut apprendre pour nous-mêmes. Alors déjà, j'aimerais prier, simplement dire un mot de prière avant de lire un court passage de la parole. Mais Père éternel, nous voulons t'adorer ce matin et bénir ton saint nom parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés en Jésus-Christ. Tu as donné ton Fils qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Tu nous as aimés individuellement et personnellement et nous te prions que toute personne dans cette salle ce matin, dans cette assemblée qui n'aurait pas pris conscience de cet amour personnel, individuel que tu nous portes en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de venir l'éclairer ce matin. Que ce soit l'un de nos enfants, un de nos jeunes gens ou un simple visiteur qui est parmi nous. Ou quelqu'un qui, depuis des années, marche au sein de l'Église sans en être nécessairement. Mais Seigneur, nous voulons t'adorer et te rendre grâce parce que tu nous as aimés individuellement et tu as aimé ton Église, le corps de Christ. Et Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin à travers ce passage que tu as aimé cette ville de Toulouse, Toulouse métropole, parce que tu y as conduit ton peuple, ton Église, pour qu'elle puisse à son tour l'aimer. On te prie de venir nous parler à travers ta parole, Seigneur, dispose nos cœurs, éveille notre intelligence, aide-nous, Seigneur, à mettre de côté, à baisser notre garde pour être disponible à l'œuvre de l'Esprit, à travers ta parole dans nos cœurs ce matin, et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Jérémie, au chapitre 29, si vous avez vos Bibles, dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques, le livre de Jérémie, un des gros livres de l'Ancien Testament, au chapitre 29. Et pendant que vous y tournez, laissez-moi simplement vous mettre en contexte un peu. Donc, Jérémie, 7 siècles avant Jésus-Christ, dans une période où le peuple d'Israël, après s'être rebellé contre Dieu, subit ce qui était entendu dans l'Alliance, c'est-à-dire que Dieu va livrer son peuple à des peuples conquérants qui viennent, en l'occurrence Nebuchadnezzar, qui conquit le territoire et qui va déporter une grande partie de la population, comme il le faisait, c'était sa pratique partout, et c'était une pratique commune à l'époque, de déporter l'élite du peuple. La jeunesse du peuple aussi, de les conduire dans notre territoire, dans notre capitale, de pouvoir les inculturer, je ne sais pas si vous dites ça, les assimiler, les intégrer, les influencer, et quelques décennies plus tard, possiblement les retourner chez eux, les retourner dans leur pays natal, là où ils vont arriver avec une nouvelle culture et ils vont intégrer vraiment l'Empire. Et c'était la vision, c'était une méthode. Donc, on y a déporté les meilleurs éléments du peuple, ceux qui étaient les plus prometteurs, l'avenir d'Israël. Et on lit dans Jérémie 29, les versets 1 à 11. On s'arrêtait au verset 11. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent choisis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils d'Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors déjà, à ma première lecture de ce passage, j'ai été frappé par le verset 4, par ces paroles du verset 4. « À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Premièrement, ce que je veux souligner avec vous dans ce passage ce matin, c'est que Dieu conduit son peuple dans la captivité. Dieu conduit son peuple dans la captivité. En fait, Dieu conduit toujours son peuple. Et donc, on lit dans les versets 4 à 6, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. » C'est toujours Dieu qui conduit son peuple, en tout temps, parce qu'il est Dieu et parce que c'est son peuple. Que ce soit dans la terre promise ou que ce soit en captivité, c'est toujours l'Éternel qui conduit son peuple. Même en captivité. Israël était appelé à accepter que l'Éternel est celui qui les conduisit à Babylone. Bien que ce soit pour eux un lieu de souffrance, ils étaient appelés à accepter l'appel de Dieu là où il les avait placés. Dieu nous appelle toujours, si nous sommes son peuple, si nous sommes ses enfants, à accepter l'appel de Dieu, là où il nous a conduits. Et donc, lorsqu'on se tourne vers le Nouveau Testament, nous croyons, comme les Écritures nous enseignent, que Christ bâtit son Église. Et souvent, on a le sentiment d'habiter au milieu de villes qui ne nous connaissent pas, qui peut-être méprisent la foi, le christianisme. Notre société est au moins aussi post-moderne au Québec que la vôtre ici. Post-chrétienne, disons-nous maintenant. Christ bâtit son Église même en captivité. Christ nous appelle à la fois dans un lieu, une culture, une cité, une ville, et c'est lui qui y bâtit son Église. Alors laissez-moi vous parler un instant du Québec. Simplement pour que vous puissiez vous identifier puis voir comment nous vivons ce passage-là à l'Église de l'Espoir, à Longueuil. Le Québec, c'est une toute petite population francophone. 8 millions. 8 millions dans la province du Québec, à l'intérieur d'un Canada anglais qui, au total, est composé de 36 millions de personnes. Donc, 8 millions de francophones dans un bassin de 36 millions de personnes. La France, 66 millions de francophones. Maintenant, donc, on est cerné par cette langue anglaise. Et ensuite de ça, au sud, nous avons évidemment les États-Unis, 323 millions d'anglophones. Maintenant, beaucoup d'hispanophones aussi. Dieu nous a placés là. Souvent, on se dit que les irréductibles gaulois ne sont pas en France. Ils sont au Québec. Ils sont au Québec parce qu'on est 8 millions à essayer de garder cette langue, à ne pas perdre cette culture. Maintenant, pour le chrétien québécois, ça ne s'arrête pas là. Parce que voyez-vous, nos voisins du sud à nous, on dit qu'aux États-Unis, 25% à peu près de la population est évangélique. 25%. Plusieurs d'entre eux sont des chrétiens nominaux, plus ou moins croyants, mais viennent de familles évangéliques. 25%. La moyenne canadienne entre 8 et 10%. Le Québec, c'est comme la France. 0.6-0.7%. Alors, si les Québécois francophones sont les irréductibles gaulois, qu'est-ce que sont les chrétiens évangéliques québécois? Alors, voyez-vous, il y a une tentation énorme pour les évangéliques québécois de regarder partout autour et d'envier les conditions qu'ils ont pour vivre leur foi. Cette liberté qu'ils ont d'avoir des avocats chrétiens, d'avoir des chrétiens qui sont au Parlement. Oubliez ça, au Québec, c'est pratiquement inconcevable. Et lorsqu'on a un de nos jeunes hommes qui quitte pour les États-Unis pour aller se former en théologie, le risque est très, très, très élevé qu'il ne revienne jamais. Parce qu'il goûte à la liberté de vivre sa foi dans une culture qui se réclame à 25% évangélique. La tentation est énorme. Et pourtant, Dieu nous a placés, nous, à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, au Québec. Dieu nous a placés là. Dieu nous a conduits là. Dieu nous a appelés à la foi à cet endroit-là. Et Dieu vous a appelés, vous, ici, à Toulouse Métropole. Dieu vous a placés ici. Et voyez-vous, lorsque je parle de l'appel, je ne suis pas en train de parler d'un appel individuel. C'est possible que Dieu m'appelle sur le champ missionnaire. C'est possible qu'en raison de mon travail, Dieu m'appelle à aller servir ailleurs. C'est bien. Mais je parle de la communauté, je parle de l'Église. Dieu nous a placés ici, il n'y a pas d'accident de parcours. Et donc, certains d'entre nous sont appelés à servir le Seigneur dans un contexte où la culture nous est plus favorable et plus ouverte au christianisme, plus ouverte à l'Évangile. On se sent moins étouffé, moins regardé de travers. Et d'autres d'entre nous sont appelés à servir le Seigneur dans une culture qui est moins favorable. Et il y a pire qu'ici, on s'entend. La Chine communiste, chrétien évangélique en Chine communiste. Déjà ici, c'est le paradis, hein? Mais c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous y envoie, c'est Dieu qui nous place à cet endroit-là. Et si Dieu nous y appelle, si Dieu nous y conduit, la question que moi je veux vous poser ce matin, et je crois la question que Dieu nous pose à travers ce passage-là, c'est quelle posture allons-nous adopter? Quelle attitude allons-nous avoir si Dieu nous a appelés, si Dieu nous a placés là, à cet endroit-là, et nous avons à apprendre de ce peuple qui est en captivité? Dieu leur dit quelque chose de complètement surprenant. Il leur dit « Recherchez le bien de la ville ». Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que son bonheur, votre bonheur dépend du sien. C'est le peuple ennemi. Ce sont leurs ennemis qui les ont déportés, qui agressivement, intentionnellement, ont des programmes pour s'assurer qu'ils perdent leur identité. Ils sont prisonniers chez l'ennemi. Ils sont menacés. Les plans sont clairs. Si Dieu les a appelés là, Nebuchadnezzar les a appelés là pour une autre raison. Et il veut qu'ils perdent leur foi, qu'ils perdent leur culture, qu'ils perdent leur croyance, qu'ils perdent leur identité. Nebuchadnezzar travaille activement. Il y a une politique, il y a des programmes pour produire ce résultat-là. On enlève les jeunes hommes, on les conduit à la cour, on les instruit. On veut qu'ils perdent leur identité. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. Dieu ne leur dit pas « Barricadez-vous dans vos monastères. Mettez-vous à l'abri. On veut vous détruire. Restez prostrés dans votre petit coin à répéter vos prières pour être certain d'en oublier aucune. Restez reclus ensemble pour être certain qu'on ne puisse pas influencer vos enfants, qu'on ne puisse pas vous influencer. Enfermez-vous. » Au Québec, le Québec était catholique à 95%, d'un catholicisme que vous avez peut-être pas connu, pas de votre génération, c'est certain. Il aurait fallu reculer peut-être de quelques siècles pour connaître ce catholicisme-là. Mais jusque dans les années 70, tous les franco-canadiens, tous les Québécois, était catholique. Et on n'avait pas le choix. C'était ainsi. Il y avait une entente tacite entre l'Église catholique et le pays, le gouvernement anglophone qui nous gouvernait. On n'essaie pas de les convertir au protestantisme, et de notre côté, on les garde soumis et dociles. C'est comme ça. Dans les années 70, il y a une révolution, 60-70, il y a une révolution culturelle énorme qui a passé sur le Québec. Et donc, en 10 ans, on est passé de 95% d'assistance à la messe le dimanche matin à 5% en 10 ans. Et Dieu avait un dessein derrière cela. C'était pas simplement une révolution culturelle. Dieu a opéré un réveil au Québec. On est passé de quelques dizaines d'églises à plusieurs centaines d'églises évangéliques en 10 ans. Parce qu'enfin, les curés arrêtaient de nous interdire d'acheter des bâtiments, cessaient de mettre nos missionnaires en prison, et ils avaient la liberté d'annoncer l'Évangile. Et donc, les gens, il y avait un exode de l'Église catholique, mais des gens quittaient l'Église catholique en disant, mais je veux connaître Dieu. Puis ils rencontraient des évangéliques qui leur disaient, tu veux connaître Dieu? Bien, tu as une intelligence semblable à la mienne. Je vais t'ouvrir les Écritures, puis tu vas lire la parole, puis tu vas comprendre les choses par toi-même. Et le pasteur qui est en avant n'a pas le seul accès à Dieu, tu as accès à Dieu toi aussi, puis tu n'as pas besoin de passer au confessionnal. On est sorti de cette emprise-là. Et donc, il y a eu un réveil spirituel. Et donc, dans les années 70, début 80, il y avait une grande liberté. Les gens se convertissaient. Et ensuite de ça, très, très rapidement, dans les années 80, 90, début 2000, on a vu un refermement de la culture. Très rapidement, cette ouverture-là est disparue. La réaction de cet exode de l'Église catholique a conduit le peuple québécois, comme on dit, à rejeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, on est devenu très, très anti-chrétien. Aujourd'hui, la culture est anti-chrétienne. Elle n'est pas seulement séculière, elle est anti-chrétienne. Être chrétien, croire ce que la Bible enseigne, c'est suspect, c'est rétrograde. Comme probablement vous le vivez ici bien souvent. Mais pour nous, ça s'est opéré très, très rapidement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les églises, dans les années 90, début 2000, se sont repliées sur elles-mêmes. Avant ça, on allait, on annonçait l'Évangile avec une grande liberté. Dans les années 90, début 2000, on s'est replié, on s'est retranché derrière nos barricades, on est allé dans nos églises. Et donc, l'Église de l'Espoir, où je suis pasteur, dans les années 90, était pour ainsi dire repliée sur elle-même. On faisait quelques incursions, on allait cogner à des portes de temps en temps. On allait dans quelques parcs chanter des chants, mais sans plus. On sortait de l'église pour aller travailler puis gagner notre pain. Mais après ça, on vivait entre nous parce que la culture nous était opposée. Et donc, le risque est bien réel lorsqu'on a le sentiment d'être en captivité. Donc, on s'est replié. On s'est enfermé derrière nos barricades, on s'est caché. Puis Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, entre autres, à travers l'Église Nouvelle Vie qui s'est ouverte pour servir la communauté. On s'est enfermé dans nos barricades, mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu demande. Et ce n'est pas ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël. Il les a invités, exhortés, il leur a commandé de rechercher le bien de la ville, de sortir de leurs murs, de ne pas s'enfermer et de chercher le bien de la ville. Il leur dit, priez pour la ville. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Il leur dit, participez au développement économique de la ville, multipliez-vous dans cette ville. Regardez verset 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons. Participez au développement économique. Habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Et donc, ils étaient appelés à participer au développement de la ville. Lorsqu'on est arrivé au milieu des années 2000, à l'Église de l'Espoir, on a réalisé que ça tenait pas. Notre posture à l'égard de la culture environnante n'était pas celle que Dieu nous demandait d'adopter. Puis on a commencé à se remettre en question en voyant des églises autour qui cherchaient justement le bien de la ville. Tout à l'heure, l'exemple a été donné avec Nouvelle Vie. Voici comment je résumerais la posture qu'on a adoptée maintenant. Et vous allez voir, ça vient des Écritures, ça vient de la parole de Dieu. Priez, allez, briller. Priez, allez et brillez. Priez en faveur de la ville. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée 2, les versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cette prière-là est très similaire à la prière qu'on trouve, à l'exhortation à prier qu'on trouve dans Jérémie 29. Priez afin qu'on puisse vivre notre foi en toute liberté, priez pour les autorités, priez pour le salut des hommes. Priez. Allez, Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, sortez de vos murs, allez vers eux. Allez leur annoncer l'Évangile sans gêne, parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Brillez. C'est Jésus qui dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Or, pour nous, ça, ça voulait dire prêcher la parole seulement, jusqu'au milieu des années 2000. On n'avait pas bien lu le passage. Le passage dit, « Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Dans notre église, dans notre milieu à nous, il y avait une résistance aux bonnes œuvres. Parce que pour nous, se lancer dans des bonnes œuvres, c'était perdre notre âme. On allait cesser de prêcher l'Évangile. Et donc, on se refusait à s'investir dans des bonnes œuvres dans la ville. Il y avait cette pensée-là, je ne sais pas d'où ça vient. Un peu, je crois, de l'armée du salut ou des organismes comme ça où on se demandait, on les regardait aller puis on se disait peut-être qu'ils ont perdu le message en cours de route. Mais on a révisé cette posture-là. Priez, allez, brillez. Priez pour eux, allez leur annoncer l'Évangile et brillez par vos bonnes œuvres. Une dernière perle que je veux faire sortir de ce passage-là et avec laquelle je veux vous encourager. Vous savez, les chrétiens évangéliques, on met un accent très, très fort sur la gloire de Dieu. On recherche la gloire de Dieu avant toute chose. Et on fait ça parce que les Écritures nous enseignent à le faire. Des fois, on voit des mouvements qui semblent être plus centrés sur l'homme, puis qui cherchent l'épanouissement de l'homme, qui s'inspirent du self-improvement movement, qui veut se dépasser soi-même. Puis il y a un évangile qui est prêché qui ressemble à ça un peu. Puis là, on a crainte de parler de cette quête de bonheur. Mais c'est vraiment surprenant lorsqu'on y porte sérieusement attention à quel point dans les Écritures, la recherche de la gloire de Dieu est intimement liée au bonheur du peuple de Dieu. Et donc, moi je prétends que contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien qu'on veuille garder la gloire de Dieu en avant toujours, on ne doit pas avoir peur de dire que le bonheur de l'homme, Dieu l'a à cœur. Et que Dieu a à cœur que son peuple soit heureux. Et que lorsqu'on cherche la gloire de Dieu, notre bonheur s'y trouve. Et regardez bien ce qu'il leur dit au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu dit à Israël, ne restez pas repliés. Voyez-vous, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait des faux prophètes qui étaient là parmi le peuple, qui leur disaient, on est ici pour un an ou deux. Défaites même pas vos bagages. Ne vous installez pas, essayez pas de développer un commerce pour vivre. Ne vous installez pas ici. On part dans un an ou deux. Mais c'était de faux prophètes, parce que Dieu les avait conduits là comme un châtiment. Et donc, ils devaient demeurer là beaucoup plus longtemps. Mais ces faux prophètes étaient là et disaient, assurez-vous de rester repliés. On est ici pour quelque temps, on est au milieu de l'ennemi, Dieu va nous délivrer. Et notre assemblée, nous vivions reclus. Lorsqu'on a vu cette réaction de la culture envers le christianisme, on vivait reclus, séparés, attendant le retour du Seigneur. Et on l'attend encore aujourd'hui, le retour du Seigneur. C'est encore notre prière constante. Viens, Jésus-Christ, viens. Mais aujourd'hui, on a accepté, on a compris que Dieu nous appelle à chercher le bien de la ville où nous sommes. Et donc, Dieu dit à Israël, multipliez-vous, occupez le pays, prospérez. Alors, je voudrais terminer avec une petite contradiction. Si vous me permettez, je vais me contredire avec quelque chose que j'ai dit au début. Et qui, je crois, est très, très important. Ça va être la nuance qu'on veut apporter, l'éclairage évangélique sur ce passage de l'Ancien Testament. S'il est vrai de dire que dans toutes les différentes postures où se trouve le peuple dans l'Ancien Testament, qu'il soit une famille, qu'il soit un peuple souverain sur son territoire ou en captivité, s'il est vrai de dire que les périodes de captivité d'Israël sont celles qui ressemblent le plus à l'Église, c'est vrai. Des petites communautés, c'est là que les synagogues se sont développées, de petites communautés perdues dans des communautés non-croyantes, non-juives, beaucoup plus grandes, qui adorent leurs idoles. Et puis, on se retrouve ensemble à la synagogue pour préserver nos valeurs, préserver nos croyances, préserver notre connaissance de la parole de Dieu. C'est un peu ça qu'on vit comme Église, non? On se retrouve ensemble en Église, on étudie la parole. Ça ressemble à des synagogues, nos Églises. Si ça, c'est vrai, en même temps, se regarder nous-mêmes, considérer l'Église de Christ comme une captive, c'est une profonde erreur. J'oserais dire que c'est mépriser l'œuvre de Christ. Parce que voyez-vous, nous servons et nous suivons le ressuscité. Les chrétiens partout sur la terre ont comme maître et seigneur celui qui a vaincu la mort, le diable et le monde. Amen. Celui qui a vaincu la mort, le monde et le diable. C'est notre Seigneur. Il règne en tout lieu, sur la terre et dans les cieux. C'est lui que nous servons. J'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens où l'apôtre Paul dit ceci pour régler une petite chicane. Vous dites ça, une chicane ici? Un conflit? Un conflit dans l'Église. Une guerre de clochers au sein de l'Assemblée. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23, « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Il leur rappelle, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des frères de Jésus-Christ. Tout est à vous. Lorsque Jésus se retrouve devant Pilate et que Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répond ceci, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Eh bien, nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas des captifs au milieu des cités des hommes. Nous sommes véritablement une cité de Dieu au milieu de la cité des hommes, mais nous ne sommes pas des captifs. Parce que nous savons que tout ce qui est permis à notre encontre, toutes les pressions sociales, tout le mépris qu'on pourrait subir, tout le mal qu'on pourrait nous faire, est encore sous la gouverne de notre Seigneur. Et avec confiance, on peut aimer s'engager envers la ville, s'avancer vers la ville, prendre position, s'afficher, aller aimer la ville, sachant qu'il y aura du mépris, mais en sachant toujours que personne ne peut nous faire du mal si ce ne sont les épreuves que notre Seigneur permet. On n'a pas à craindre les hommes, nous ne sommes pas des captifs, bien au contraire. Nous sommes là pour aller délivrer les captifs. Et voyez-vous, chaque fois qu'on lit l'Ancien Testament, on doit amener la lumière de l'Évangile pour le comprendre et le contextualiser pour nous. Si Israël était véritablement captif, nous ne sommes pas captifs. Nous avons le mandat d'aller libérer les captifs. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Aimez la ville où Dieu vous a placé. Faites du bien avec vos bonnes œuvres afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Concrètement, l'Église de l'Espoir, depuis cette époque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On travaille constamment à ce que notre... C'est des idées, je vous partage ce que nous on fait chez nous. On travaille constamment à ce que notre bâtiment d'église, soit de plus en plus utilisé par la communauté au service de la communauté. On veut que ça devienne un édifice communautaire, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos portes pour des collectes de sang. Lorsqu'il y a un organisme dans la ville qui a des valeurs moindrement compatibles avec nous et qui veut faire une collecte de fonds, on ouvre nos bâtiments pour qu'ils puissent faire une activité, une collecte de fonds à l'intérieur de notre édifice. On tient maintenant une banque alimentaire à l'intérieur de notre bâtiment. Ce sont des idées. Mais pour nous, on a ouvert nos murs en aidant les gens à venir entrer. Non pas en leur disant « venez vous asseoir le dimanche pour écouter un message évangélique ». Ça, ça suit toujours. Ça vient toujours. En fait, lorsqu'on ouvre nos portes pour une collecte de sang, les organisateurs sont là le dimanche suivant pour remercier l'Assemblée et viennent écouter le message. Des bénévoles viennent, on tisse des relations avec eux. Mais non seulement on ouvre nos portes en faisant tomber nos murs, puis en invitant les gens à s'approprier notre bâtiment, les gens de notre quartier, mais maintenant on a un pasteur qui accompagne nos cellules. Chez nous, ce sont des groupes de quartier. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne nos cellules afin de les aider, chacune d'entre elles, des groupes de 10, 15, 20 personnes, à trouver un organisme dans leur quartier, plus près de chez eux, où ils peuvent aller s'impliquer ensemble. Ce sont des idées encore. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc, s'impliquer ensemble dans un organisme quelconque, ensemble. Pas seulement un chrétien dans son milieu de travail. Bien sûr, c'est excellent d'aller témoigner au travail à des collègues. Mais 10 chrétiens ensemble, 15 chrétiens ensemble, qui servent dans un organisme et qui ensuite de ça prennent un repas ensemble puis invitent des amis parce qu'ils ont tissé des relations à l'intérieur de cet organisme-là. Puis ils invitent les amis à venir manger avec eux. Et le témoignage s'installe très, très rapidement. On a découvert, pour nous au Québec, dans une société post-moderne, post-chrétienne, que lorsqu'on y va avec cette approche-là, c'est très, très, très facile de prêcher l'Évangile. Je ne parle pas des conversions. Toutes les méthodes des hommes ne remplaceront jamais le Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint qui convertit. C'est l'Esprit-Saint qui convainc. Et donc, nous, on fait notre travail au mieux, mais c'est lui qui fait la différence. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut créer ici dans cette assemblée. Ce sont des idées pour chez nous, ça ne veut pas dire qu'elles soient appropriées ici. Dieu va vous conduire, vous, à aimer la ville. Ça demande premièrement de prier. Deuxièmement, de désirer aller. Troisièmement, de décider de chercher le bien de la ville en allant la servir. Puis Dieu va vous conduire, Dieu va vous donner des idées novatrices ici. Puis Sam ou Vincent vont venir à Montréal pour venir nous édifier, nous raconter ça. Nous conter ce que vous avez fait ici. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Dieu vous a conduit ici, Toulouse Métropole, comme il nous a placés nous à Montréal. C'est lui qui nous a conduits dans les villes que nous habitons. C'est intentionnel, il nous a placés là. Non pas pour que nous vivions reclus, barricadés, protégés d'une culture qui est menaçante pour notre foi, mais au contraire, pour que nous prions pour nos villes, pour que nous allions vers les gens, faire des disciples de Jésus-Christ dans nos villes et que nous brillions par nos bonnes œuvres dans nos villes. Alors, mon mot d'encouragement pour vous, c'est choisissez-vous quelques projets que Dieu vous mettra à cœur pour le bien de la ville. Ne vous découragez pas, vous allez essayer des choses, vous allez faire des tentatives, elles vont échouer. On recommence le lendemain, aucun problème. Ça nous a pris plusieurs tentatives, puis nos cellules, nos petits groupes font des essais. Fonctionne pas, on recommence. Mais Dieu éventuellement ouvre des portes. Choisissez quelques projets que Dieu vous mettra à cœur et servez la ville. Vous n'êtes pas captif, bien que vous attendez une plus grande délivrance, bien que vous attendiez le retour de Christ. Alors regardez comment le passage se termine et je termine vraiment avec ce beau verset. Au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Recherchez le bien de la ville Toulouse Métropole et sachez que Dieu y a formé des projets pour vous, de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. » Amen. On va prier ensemble. Mais Père éternel, merci de m'avoir redonné la voix. Merci Seigneur, surtout pour ta voix, cette sainte parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne voulons pas édifier des églises par nous-mêmes, c'est toi qui les bâtis. Et nous ne voulons pas être des bergers sur ces églises qui y vont de leurs idées, de leur invention de l'Église. Nous voulons tirer de ta sainte parole, Seigneur, les instructions nécessaires pour être ce peuple au milieu des nations, ce peuple qui va vers les nations. Seigneur, on a quelque chose à apprendre ce matin de cette captivité d'Israël où tu nous surprends en disant à Israël, aime tes ennemis, fais-leur du bien, bénis-les, cherche leur bien, prie pour eux, aime-les, serre-les, cherche leur prospérité. Parce que ton bonheur en dépend. Seigneur, nous n'avons pas de plus grand bonheur que d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et de voir des âmes venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Je te prie pour cette belle Église ici, Seigneur, le BTM. Viens bénir cette assemblée, viens bénir ses pasteurs, viens bénir ses anciens, Seigneur. Viens les conduire à aimer la ville Toulouse Métropole. Viens leur ouvrir, Seigneur, des projets devant eux. Viens les amener à tisser des relations, à exposer les non-chrétiens qui les entourent à l'Église, à travers cette communion, ce service, ce bien que nous faisons à la ville, prêchant en toute liberté l'Évangile de Jésus-Christ, chaque fois que l'occasion s'y prête. Seigneur, nous t'aimons, nous attendons ton retour. Loin de nous le désir de nous installer ici, comme si une vie meilleure ne nous était pas réservée. Bien au contraire, Seigneur. Nous languissons après cette délivrance, être appelés à tes côtés, Seigneur. Mais entre-temps, nous voulons, Seigneur, racheter le temps, chercher le bien des villes où tu nous as placés, parce que nous y sommes missionnaires. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.